des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, un temps des écrivains un peu particulier, puisqu'on va prendre pas mal de champs, pas mal de distance avec notre époque. Quoique, car il en sera forcément question de notre époque, puisque nous parlerons de la littérature de l'Antiquité et qu'elle résonne forcément avec la nôtre, à moins que ce ne soit nous qui voulions à tout prix raisonner avec elle. Et en quoi ce serait mal? Et est-ce que ça ne pourrait pas même nous faire un peu de bien? On va voir ça dans ce temps des écrivains antiques. Avec nous, William Marx, qui vient d'être élu au Collège de France et qui est l'auteur de La haine de la littérature chez Minuit, où il parle notamment de la façon dont Platon traitait les poètes, auteur aussi du Tombeau de Sophocle, l'essai sur la tragédie grecque, paru également chez Minuit, tragédie qu'il faudrait sauver de notre conception moderne de la littérature et du théâtre, qu'il faudrait sauver de nous-mêmes, écrivez-vous. Bonjour William Marx.
Bonjour Christophe.
Avec vous Pascal Charvet, agrégé de l'art classique, spécialiste des traités antiques sur les constellations, notamment celui d'Ératosthène que vous avez traduit avec Arnaud Zucker, traducteur aussi de la grande poétesse Sappho, spécialiste de la magie dans la littérature grecque. Vous présentez avec Arnaud Zucker et Monique Trédé une anthologie de textes sur l'Antiquité de la grande helléniste et spécialiste de Thucydide, Jacqueline de Romilly, dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Vous êtes aussi inspecteur général honoraire de l'éducation nationale et l'homme choisi par le ministère pour restaurer, on doit peut-être dire ressusciter, l'enseignement des humanités dans les collèges et les lycées. Bonjour Pascal Charvet.
Bonjour Christophe.
William Marx, vous enseignez à l'université de Paris-Nanterre la littérature comparée. Vous êtes, je le rappelais, un grand connaisseur de la littérature antique aussi. Ce serait quoi un monde sans enseignement des humanités? Ce serait terrible.
C'est le monde dans lequel, j'espère, nous n'entrerons pas, parce que nous serions quasiment les seuls en Europe, en fait, à avoir supprimé cet enseignement du latin et du grec. Mais c'est vrai que l'ensemble des autres pays, qu'il s'agisse de l'Angleterre, qu'il s'agisse de l'Allemagne, et je ne parle pas de l'Italie, où là, les études classiques sont vraiment tout à fait au cœur même de l'enseignement, ils maintiennent un enseignement du grec et du latin beaucoup plus fort que chez nous. Supprimer donc ces modèles-là, qui sont fondateurs pour notre régime politique, d'une part, et par ailleurs supprimer cette sorte d'intermédiation que pouvaient représenter les civilisations grecques et latines pour l'ensemble des populations qui sont arrivées en France, qui viennent du bassin méditerranéen, qui pouvaient effectivement retrouver dans ces civilisations-là un mode de civilisation qui peut être à certains égards proche de ce qui existe encore aujourd'hui dans le monde méditerranéen, mais qui en même temps est quelque chose qui est un autre modèle de rapport aux dieux, de rapport à la religion. C'est-à-dire qui permet, parce que le rapport à la littérature grecque et latine, on rentre là directement dans le vif du sujet, est quelque chose qui nous permet par exemple de sortir du débat stérile ou de l'opposition stérile entre les monothéismes que nous vivons actuellement, pas seulement en France, mais dans l'ensemble du monde. Parce que là, nous avons à l'intérieur du monde latin, à l'intérieur du monde grec, et cela s'exprime dans ces littératures-là, nous avons l'expression d'un polythéisme, d'une diversité des dieux et d'un dialogue entre les cultes qui est actuellement aujourd'hui inimaginable. Et donc montrer cela à des étudiants, c'est quelque chose qui est extrêmement formateur et qui permet de reconstruire un nouveau pacte républicain.
Par l'altérité. Arrêter de se dire, voilà, c'est nos origines, nos racines, qui a été un cliché aussi total, mais plutôt ils sont différents, et c'est parce qu'ils sont différents qu'il faut lire ces écrivains.
Absolument. Moi, ce que j'ai trouvé de très dommageable, parce que je suis allé dans mes classes encore récemment, c'est cette absence d'épaisseur historique, si vous voulez, justement dans la confrontation de l'écart. C'est-à-dire que les élèves non plus deviennent des immémoriaux au sens où Ségalène le disait négativement à un moment donné aux Polynésiens, parce qu'évidemment, ils avaient la chance d'être les immémoriaux, puisque de tout temps, leur littérature était orale et maintenue, comme un peu à l'époque des Aèdes grecs. Et Ségalène leur dit, vous êtes des immémoriaux. Et ce sentiment d'être des immémoriaux, c'est-à-dire coupés seuls en Europe d'ailleurs, et je ne le cache pas, c'est un des sujets de préoccupation l'attention de la commission d'éducation de l'Europe. Hein. Il y a le téléphone portable, l'IA, enfin, on m'avait donné trois sujets. Il y a les humanités, est-ce que la France réussira à rebâtir ses humanités? Et le troisième, c'est bien sûr la laïcité. Mais enfin, vous voyez, je pense que là, cette absence de capacité à mettre, j'allais dire, à distance, de comprendre la différence de l'autre, de comprendre les valeurs, vous aviez parlé, William, à l'instant, et très justement, ce qui concerne le politisme, mais sur l'hospitalité aussi, ça nous permet d'interroger les situations actuelles. Parce que l'errance, la migrance, ça va être le sujet du Festival d'Avignon cette année, enfin, ça va être la thématique essentielle.
Les grandes épopées fondatrices de l'Antiquité, je pense en particulier à l'Énéide, sont des romans de la migration et de migrants qui viennent fonder de nouveaux pays et rentrer en contact et faire alliance avec d'autres pays.
Je voudrais rappeler d'ailleurs un mot, c'est la comparaison qu'avait faite Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, en disant que voilà, derrière l'Énéide, il y a le grand récit européen. Pas seulement parce que c'est un récit produit par cette civilisation-là, mais parce qu'en fait, c'est un homme qui quitte sa patrie en feu et qui va en fonder une autre. Et en fait, c'est la chance des vaincus. Et l'Europe, au fond, est une histoire de vaincus qui ont une deuxième chance. Donc on est tout à fait dans ce que vous disiez. William Marx, vous êtes, je le disais, l'un de nos plus brillants essayistes sur la littérature. On vous connaît comme un bousculeur de certitudes en ce qui concerne les idées qu'on se fait de la littérature. Vous avez travaillé sur T.S. Eliot, sur Valéry, deux de vos sujets vraiment d'études. Et puis il y a ce livre, Le tombeau d'Œdipe, dont on reparle beaucoup. Dans ce texte, sous-titré de façon assez provocante pour une tragédie sans tragique, vous prenez comme fil conducteur la pièce de Sophocle, Œdipe à Colone, et vous nous montrez qu'au fond, je vous cite, « Nous lisons les textes anciens avec cette idée d'un art autonome, à vocation universelle, détaché le plus possible de son contexte, des lieux, des temps et des dieux. Or, rien de cette conception-là n'existait à Athènes au 5e siècle avant notre ère. » Bref, vous nous dites, en progressant un peu à la façon d'un auteur de polar, à la recherche de cet introuvable tombeau d'Œdipe, que autour de la tragédie, finalement, nous nous sommes encombrés d'un tas de discours philosophiques, littéraires, sur une littérature dont on n'a plus que des restes, des ruines, et que du coup, on est dans une méconnaissance totale de ce qu'elle était vraiment. Est-ce que c'est cette méconnaissance totale de cette littérature antique, tragique, qui nous la rend encore plus indispensable, au fond ?
C'est pour moi cette méconnaissance est ce qui nous la rend la plus mystérieuse et donc la plus fascinante également. J'ai tendance à dire que la littérature antique est un peu pour nous comme est la Vénus de Milo. Sauf que quand nous voyons la Vénus de Milo, nous nous rendons compte qu'il lui manque les bras. Et donc on l'admire pour diverses raisons, mais on la voit incomplète. Et nous, quand nous voyons un texte ou quand nous lisons un texte antique, nous ne nous rendons pas compte que ces textes sont incomplets. C'est-à-dire qu'ils nous parviennent privés de tout le contexte qui leur donnait sens, un contexte géographique, un contexte culturel, un contexte civique, un contexte politique. Et ces textes détachés de tout contexte, ça correspond très bien. Alors c'est ça le caractère un peu terrible de la situation, c'est-à-dire que ça correspond très bien à notre situation littéraire aujourd'hui. C'est-à-dire que quand nous lisons un texte aujourd'hui en littérature, nous allons dans une librairie, nous achetons un texte, nous ne connaissons pas l'auteur, nous ne l'avons jamais rencontré, et nous le lisons dans le coin de notre chambre tout seul. C'est pas comme cela que les choses se passaient dans la Grèce antique. Les textes étaient dits, énoncés dans le cadre d'élocutions, de conférences, de représentations publiques, et ils faisaient référence à plein de choses que nous avons perdues. Alors c'est vrai que ces textes nous parlent énormément, et Jacqueline Romilly parle énormément de la façon dont ces textes font écho à nos propres préoccupations et sont fondateurs chez nous. Mais en même temps, nous avons trop tendance, parce que nous sommes dépendants de cette vision littéraire, nous avons trop tendance à absorber ces textes comme s'ils nous appartenaient. En fait, il faut aussi montrer comment ces textes sont différents de nous, comment ces textes représentent une altérité, et une altérité qui est aussi une altérité enrichissante. Hein, c'est ça. L'altérité n'est pas simplement quelque chose qu'il faut laisser à l'écart, mais c'est quelque chose qui nous montre un monde, alors que nous ne comprendrons peut-être jamais. Hein, ça, il faut bien être très modeste de ce point de vue-là. Mais en même temps, cette altérité est une altérité qui peut nous construire et peut nous montrer une autre façon, peut-être, de vivre notre monde, notre rapport au Dieu, notre rapport aux autres hommes. Nous parlions tout à l'heure de la question des migrations, de l'hospitalité, qui était absolument fondamentale dans le monde monde antique et qui a bien disparu maintenant. Il serait intéressant de revenir à ces textes antiques, non pas comme des textes qui sont des textes élitistes, ce qui a été l'argument contre l'enseignement de cette littérature et de ces langues, mais comme des textes qui peuvent nous permettre de fonder de manière nouvelle un rapport avec l'étranger, un rapport avec les différentes sexualités aussi, des choses qui sont extrêmement fondamentales pour tous les lecteurs et les jeunes lecteurs. C'est extrêmement important.
Pascal Charvet, vous consacrez ce livre avec Arnaud Zucker, Monique Trédé et Marion Bellissime à Jacqueline de Romilly, qui a été une formidable passeuse de littérature antique. On trouve dans ce volume qui s'ouvre par son livre sur Hector, un texte sur Homère, son grand texte aussi sur Alcibiade, ses réflexions sur la tragédie grecque, Patience mon cœur aussi, qui vient d'un vers d'Homère. On trouve des textes sur l'essor de la psychologie dans la littérature grecque classique. Pas ces textes sur Thucydide, son Thucydide chéri, parce que sa traduction fait l'objet d'un autre volume de la collection bouquin Histoire de la guerre du Péloponnèse. Pourriez-vous nous dire, Pascal Charvet, en quoi Jacqueline de Romilly reste pour vous, malgré tout, ce qu'on peut dire sur elle, quelqu'un à lire aujourd'hui ?
C'est assez simple, parce qu'au fond, ça correspond à ma propre expérience, que je ne m'étalerai pas dessus, simplement. Je n'avais jamais vraiment connu Jacqueline de Romilly. Je veux dire, oui, je connaissais bien sûr son existence.
Vous êtes un disciple de Vernon.
J'ai un disciple plutôt, de Vernon, voilà. De Marcel Étienne aussi, et puis surtout de René Char, avec, dont j'étais effectivement un des fidèles. Mais, si vous voulez, jusqu'aux années 2000 et quelques, 2004, je n'avais pas connu vraiment Jacqueline de Romilly. Et je dois dire que la rencontre a été étonnante. D'abord, ça a été dans un jeu politique, puisque je venais d'être nommé inspecteur général et qu'elle était venue avec Jean-Pierre Vernant demander un coefficient, une sorte de discrimination positive pour que le grec puisse continuer. Parce que c'est vrai que c'était quand
déjà.
Même... Déjà, oui, c'était en 2004-2005. Donc là, moi, j'avais pu servir de truchement. Enfin, c'était bien sûr leur poids qui avait emporté la chose. Mais c'est surtout après. Je veux dire, j'ai eu un coup de foudre. C'est ce coup de foudre, c'est cette émotion. Arnaud Zucker aussi, disciple de Détienne, puisqu'il a fait sa thèse avec lui, enfin bon. Et que nous avons eu tous les deux.
Il nous a quitté Marcel Détienne, quand même, très, très
bien sûr.
Récemment, et nous en sommes tristes.
Oui, je le dis bien, il faudra lui rendre hommage aussi. Et si vous voulez, j'ai passé une après-midi avec elle à remettre un prix plusieurs fois, mais enfin la première fois. Et elle m'a pris la main, puisque nous remettions des prix. Elle a posé sa main sur la mienne, j'ai encore cette trace, avec énormément d'élégance et de délicatesse. Et elle m'a, à un moment donné, étonné, parce qu'il y avait un lauréat qui, effectivement, était un garçon qui manquait pas d'allure. Enfin, voilà. Et sans aucune, j'allais dire, gêne, elle me dit, mais il est vraiment bien, hein, il est vraiment beau, n'est-ce pas? Et je lui dis, oui, parce qu'elle essayait de discerner. Oui, alors, il n'y a pas que ça, il y a eu bien sûr d'autres conversations, mais il y a eu cette fidélité à une femme. Vous voyez, on ne peut pas distinguer, enfin, vous le dites souvent, on peut, et vous avez mille fois raison, essayer de se forcer à distinguer le corps de l'esprit, c'est pas possible. C'est quand je l'ai rencontrée là, que si vous voulez, est née une fidélité. Je l'ai retrouvée parce qu'elle allait à cet âge-là avec Jean-Pierre Vernant, aller dans les établissements, vous le savez, vous, Christophe. Elle était, c'est celle qu'on voyait dans les collèges, dans les lycées les plus perdus, dans des régions même improbables. Elle était toujours là. Ouais. Alors, à sa façon.
Là, vous parlez de la personne Jacqueline de Romilly, effectivement, et de son énergie incroyable
oui.
pour défendre cet enseignement. Mais la lire aujourd'hui.
Ah, mais je vous dirais, oui.
Est-ce que ça. Tient encore le coup, si je
alors,
le dis familièrement.
C'est puisque, toute une époque. Voilà. C'est une question d'époque. C'est ce qu'on appelle un certain style. C'est, si vous voulez, pour moi...
scientifiquement aussi.
Scientifiquement aussi. Je dirais que, oui, scientifiquement, les références sont toujours extrêmement rigoureuses là-dessus. Elle reste profondément savante. Mais elle a décidé, si vous voulez, d'être passeuse avant tout, pédagogue, c'est la professeure. Et, si vous voulez, quand on la suit, on se rend compte qu'elle prolonge cette conversation dont parle d'ailleurs Patrick Boucheron à propos de Dante, à propos de Pétrarque. Elle aussi, elle continue à converser avec ses amis invisibles. Et elle va jusqu'à le dire à la fin. Quel besoin de perdre un quart d'heure avec un imbécile quand je peux passer 15 minutes avec Platon ou Alcibiade, vous voyez ? Enfin bon, et ça, cette espèce de, si vous voulez, de patrie perdue, elle en est parfaitement consciente. Elle ne l'a jamais vue, mais elle leur écrit des lettres. Et ce sont des lettres qu'elle écrit, avec évidemment la médiation du public, comme Pétrarque à Socrate, des aphorismes comme René Char à Héraclite, d'une manière différente.
C'est donc cette conversation-là que
c'est une longue conversation sous forme kaléidoscopique qui parfois ressent toujours précise, qui n'est probablement pas ce qui va nous permettre aujourd'hui de reconstruire, si vous voulez, je veux dire, avec l'anthropologie, mais elle n'était pas du tout hostile, parce que moi, dans les échanges que j'ai eus, elle envoyait ses étudiants, elle me disait, il faut qu'ils aillent écouter Jean-Pierre,
qui était... Jean-Pierre Vernant.
Qui était, oui, mais elle disait Jean-Pierre, puisque
l'autre,
c'était...
L'autre son, bord, j'allais dire, voilà.
Oui, mais c'était son compagnon de prépa, enfin, ils étaient ensemble en prépa aussi.
Mais c'est une approche tout à fait différente.
L'incroyé au miracle, on résume ça dans cette formule, l'incroyé au miracle, on n'y croyait pas, effectivement. Mais
c'est quoi les miracles pour les auditrices et les auditeurs?
Le miracle grec. Ouais. C'est le miracle grec, ouais. Oui. C'est vrai que.
C'est quoi le miracle grec?
Le miracle grec, c'est qu'il y a.
Thèse du miracle grec.
Mais c'est le miracle grec qui nous a fait quand même, je dirais, beaucoup de mal aussi. N'hésite pas à le dire, parce qu'il y a eu d'autres miracles. Je pourrais parler du miracle maori, du miracle chinois. Si vous voulez, il n'y a pas qu'un miracle. Mais il est vrai. Et même Vernant, qui, Dieu sait, ce n'est pas ça, la fin de sa vie, disait « Le monde est beau comme un dieu grec ». C'est qu'il y a quand même, sur cette terre grecque, ce que Jacqueline Romilly avait senti, c'est qu'il s'était passé quelque chose de particulier pendant quelques années. Voilà. Et c'est donc, si vous voulez, je dirais que nous ne pouvons pas, et elle ne peut pas, ne pas parler aujourd'hui, et ces phrases coulent, je dirais, en méandre entre les stratus brisées du Gandhara, la bibliothèque et le musée d'Alexandrie, et l'Omphalos de Delphes. Alors, c'est, je dirais, le témoin idéal pour qui veut comprendre et se familiariser.
Voilà. Le témoin, voilà. Martyr en grec. Martus, Marturos. William Marx. Jacqueline de Romilly, son approche, c'est pas non plus la vôtre. Est-ce qu'elle est pas un peu datée quand même?
Alors moi, justement, je me suis replongé dans ces textes à l'occasion de la parution de ce volume, mais moi, j'ai été frappé, en fait, et je partage avec Jacqueline de Romilly cette passion, mais forte, mais viscérale, pour l'antiquité classique. Alors, chez Jacqueline de Romilly, c'est surtout le grec. Moi, c'est les deux mondes gréco-latin. Et puis moi, pour ma part, Jacqueline de Romilly ne s'intéresse essentiellement qu'à la Grèce classique et archaïque. Et moi, je prends tout. Je vais jusqu'à la basse antiquité. Et j'adore.
Ouais, c'est pas mal.
J'adore l'ensemble de ce monde-là. Mais alors, c'est vrai que des miracles, comme disait Pascal Charvel, il y en a partout. Il y a les miracles chinois, les miracles indiens, les miracles japonais, il y a des miracles arabes aussi. Il y a plein de miracles partout. Ce miracle grec nous parle particulièrement, et même Jean-Pierre Vernant y croyait aussi à bien des égards. Moi, ce qui me frappe en lisant Jacqueline de Romilly, c'est justement cette émotion extrêmement forte qu'il y a chez elle lorsqu'elle parle de ces textes, et la volonté qu'elle a de faire passer cette émotion. Alors, elle l'a fait passer en en parlant directement, en parlant elle-même de la beauté de ces textes, et ça peut effectivement plaire à un certain nombre de lecteurs. Moi, j'aurais tendance à faire les choses différemment et à montrer plutôt, au contraire, le sentiment de fascination, parfois un peu horrifié, qu'on peut avoir devant ces textes mystérieux. Et peut-être, il faut les deux.
Qu'est-ce qui vous horrifie, William?
Il peut y avoir des choses absolument horribles qui se passent à l'intérieur de ces textes. Lisez l'Iliade, lisez par exemple les récits de ces batailles où les lances passent à travers les bouches et ressortent de l'autre côté de la nuque au milieu de l'enclos des dents. Enfin, il y a des descriptions qui sont totalement gore et qui n'ont rien à...
Cannibalisme aussi, dans certaines pièces de théâtre aussi. Sert à manger les morceaux.
Dans Tieste de Sénèque, qui reprend lui-même une ancienne tragédie grecque. Il y a des choses absolument horribles et horrifiantes. Et puis, même parfois dans des poésies d'Horace, on trouve une violence, une cruauté qui est absolument inimaginable. Et ça aussi, ça peut plaire à des élèves et des lecteurs. Alors moi, j'aurais tendance, moi, à insister sur la douceur qui existe, il est certain, mais aussi à insister sur d'autres aspects de cette civilisation.
On a vu récemment beaucoup d'agitation autour d'une mise en scène, précisant que c'était la mise en scène qui était attaquée, pas le texte, des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne, parce qu'il avait maquillé de noir les actrices de ses suppliantes dans des représentations précédentes. Philippe Brunet aurait, selon certains militants se présentant comme antiracistes, souscrit au blackface, donc cette insupportable pratique raciste venue des shows ségrégationnistes du 19e siècle, qui voyait des blancs se grimer en noir pour les moquer. Bien sûr, Brunet s'en est défendu, son engagement théâtral plaide d'ailleurs pour lui. Je voudrais juste rappeler le texte d'Eschyle sur ses suppliantes, ces 50 filles des bouches du Nil, dit-il, que le roi qui les accueille en Grèce, le roi d'Argos, Pélasgos, décrit ainsi. Vous ressemblez plutôt à des Libyennes, pas du tout aux femmes de notre pays. Vous rappelez aussi le type chypriote, frappé par des mâles dans des moules féminins. J'ai entendu parler aussi d'Indiennes nomades, voyageant en selle à dossier sur des chameaux qui font office de chevaux dans un lointain pays de l'Éthiopie. Si vous étiez armé d'arc, j'aurais certainement conjecturé que vous étiez ces Amazones sans mari qui mangent de la chair crue. Bref, en une phrase, chez Échille, on est passé des Libyennes aux Amazones qui passaient pour vivre du côté de la mer Noire. Donc, assez loin des bouches du Nil. Il parle même d'Indiennes, de Chypriotes. On est dans l'irréalisme total. Quel regard vous portez sur cette affaire qui ramène finalement cette irréalité à une réalité contemporaine?
C'est-à-dire que les Danaïdes représentent l'altérité absolue venue en Grèce d'un monde totalement étranger aux Grecs, et Échille insiste énormément sur cette altérité. Philippe Brunet, me semble-t-il, d'après ce que j'en ai lu, a voulu représenter cette altérité en montrant ses suppliantes comme effectivement venant d'un monde différent, et donc il en a un peu noirci la peau. Et ce faisant, il a obéi à la technique originelle du théâtre grec qui consiste à créer des métamorphoses. Hein, le théâtre grec est vraiment dans la métamorphose et il s'agit de représenter sur la scène des choses qui sont différentes du monde des Athéniens en particulier, hein, qui regardent ces spectacles. Et donc cet aspect carnavalesque du théâtre est fondateur du théâtre grec. Alors après, il me semble qu'il y a ce qui se passe ici, une sorte de collision entre des signes anciens et des signes modernes, et c'est cela que le metteur en scène doit gérer et qui est mal compris peut-être, et peut-être sans doute pour des raisons purement idéologiques et politiques en fait, qui est mal géré sans doute par les militants antiracistes qui sont intervenus, qui ont voulu censurer la pièce. Et effectivement, la confusion avec le blackface est regrettable, et elle est dans l'œil du spectateur, cette confusion. Elle n'est certainement pas dans l'œil du metteur en scène. Mais c'est tout le problème qui est de représenter aujourd'hui des pièces qui représentent des mondes différents. Ces pièces nous présentent un monde différent, mais il faut les gérer pour un spectateur d'aujourd'hui. Ouais. Et il y a là vraiment quelque chose de...
Donc il a fait une petite erreur, quand même.
Non, je ne suis pas sûr qu'il ait fait... Non, il n'y a pas fait d'erreur, au contraire.
Pas compte, peut-être.
Non, je n'en sais rien. Non, je n'irai pas là-dessus. En contraire, ce qui me paraît paradoxal dans l'histoire, c'est Philippe Brunet s'est montré, me semble-t-il, assez progressiste en acceptant cette identité peut-être noire des suppliantes, des égyptiennes, de ces égyptiennes des sources du Nil, et en les montrant sur la scène. Qu'aurait-on dit s'il avait voulu effacer cette origine-là? On aurait dit que c'était encore une manière de blanchir l'histoire de la Grèce. Et donc, je trouve qu'au contraire, il y a un aspect extrêmement progressiste dans le travail de Philippe Brunet. C'est très paradoxal qu'on l'attaque là-dessus.
Et vous, Pascal Charvet?
Moi, ma réaction, elle va être... Enfin, je suis de la même nature que celle de William, mais en étant encore plus... Enfin, triste. Triste parce que sur le web, tout peut se dire, le pire est le meilleur. Mais là, on est face à des étudiants qui ont des responsabilités, qui théoriquement ont été formés. C'est l'échec de notre système éducatif parce que cette absence de pensée critique, cette incapacité à comprendre, j'allais dire la différence et aller voir de près, c'est le manque de rigueur qui me gêne. Parce qu'en plus, si on peut ajouter encore quelque chose. Ces égyptiennes, entre guillemets, ne sont pas des égyptiennes. Ce qui est intéressant, c'est elles sont filles d'Argos. Elles reviennent, en fait, demander l'asile chez elles, enfin, après un long exil. C'est toute l'errance dont nous parlions tout à l'heure.
Oui, il faut juste rappeler un peu plus ce que vous dites, Pascal Charvet. C'est-à-dire qu'elles sont égyptiennes, mais elles rentrent, j'allais dire, à la maison en Grèce.
Donc, en fait, on ne sait pas où on est.
Au moment
précis où elles ne veulent pas épouser effectivement les fameux fils d'Égyptos. Et donc, je dois dire que là, ne pas faire l'effort de comprendre ce que sont les masques, parce qu'on aurait le même problème avec une représentation des masques latins. Parce que les masques latins, vous savez, les grandes processions au moment des enterrements, où on a ces masques qui sont effectivement le masque du mort, qui sont en cuir et qui sont donc dans l'âtre et qui sont noirs de fumée. Si vous voulez, tout peut devenir prétexte à ce moment-là, alors qu'il s'agit de jouer l'autre. Il s'agit, celui qui va porter le masque de son ancêtre joue le rôle de son ancêtre. Donc nous sommes, j'allais dire, dans une incapacité de comprendre aujourd'hui ce que peuvent être des représentations d'autres codes, d'autres cultures. Concrètement, il est aberrant d'avoir une vision aujourd'hui aussi simpliste et considérer que ce qui faisait partie, j'allais dire, d'une représentation culturelle et cultuelle aussi, puisqu'il s'agissait d'une pièce de théâtre, puisse être un instrument de blackface.
Pascal Gervais, vous parliez juste de ces masques noircis par la fumée de l'âtre. Est-ce que vous pourriez préciser?
C'est une des choses les plus étonnantes qu'il y avait à Rome dans les grandes familles. Et d'ailleurs, Florence Dupont insiste là-dessus parce que c'était toute une cérémonie théâtrale puisqu'on allait jusqu'à montrer le corps, j'allais dire évidemment articulé du défunt. Mais chacun représentait un membre de la famille, vêtu d'une toge blanche et défilant parfois 4-5 000 personnes avec ses masques noirs sur le visage. C'était l'accompagnement du mort jusqu'au forum. Et c'est là qu'il y avait cette machine où on présentait le mort à la foule qui pouvait l'animer. Machine dont s'est servi Marc-Antoine avec le corps de César pour effectivement émouvoir la foule.
Et le noir venait?
Et le noir venait de la suie qu'il y avait dans l'âtre, ces masques au fil du temps, puisqu'à chaque fois on prenait l'empreinte, évidemment, du visage du mort. Et dans ces grandes familles, le mur, il y avait des murs qui étaient recouverts entièrement de ces masques qu'on utilisait pour l'enterrement.
On continue à parler avec vous de littérature antique et d'altérité, qui est le mot de cette émission. On écoute, Pascal Gervais, votre choix musical. Vous avez choisi Angélique Ionatos et Nena Venetsanou, Grigora y Ora, c'est sur le disque Sappho de Mytilène.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Πάει το φεγγάρι, πάει, πάει το φεγγάρι, πάει κι η πουλιά. Πάει το φεγγάρι, πάει, πάει το φεγγάρι, πάει κι η πουλιά. Βασιλέψανε
Angélique Ionatos et Nena Venetsanou, Grigora y Ora, c'est sur le disque Sappho de Mytilène. C'est le choix de Pascal Charvet qui vient nous présenter cette anthologie consacrée à Jacqueline de Romilly. Le titre c'est Émerveillement, réflexion sur la Grèce antique. Regroupant plusieurs textes, Hector, Homère, l'amitié de Giraudoux avec l'hellénisme, la Grèce antique à la découverte de la liberté, Patience mon cœur, la douceur dans la pensée grecque et d'autres textes. Pascal Charvet, pourquoi ce choix musical ? Vous êtes traducteur de Sappho.
Oui, c'est parce que c'est une vieille histoire, oui, parce que c'est une traduction qui était la première traduction, si vous voulez, de Sappho, après, j'entends, sur les nouvelles éditions qui avaient été trouvées. Et donc, l'idée, c'était de rendre Sappho telle qu'elle était dans les manuscrits, c'est-à-dire non pas faire ce que beaucoup ont fait, c'est combler les blancs. Alors, aujourd'hui, j'aurais envie, effectivement, de le faire. Mais c'était l'idée de la présenter dans sa fresque. C'est-à-dire que c'est l'état du manuscrit, l'état des manuscrits aujourd'hui.
Avec les trous.
Avec les trous. Avec ce qu'on a trouvé, bien sûr, ça vient de tous les coins possibles. Mais ce qui m'intéressait, c'était de faire entendre cette voix dans cette édition, dans son altérité totale, puisque c'est l'état du texte qu'on a trouvé.
Ouais. Mais pourquoi on a comblé, c'est-à-dire en se fondant sur quoi
Par exemple, René Vivienne, évidemment. Alors, avec beaucoup d'élégance, un peu comme Pierre-Louis, ont eu tendance, évidemment, à arranger un peu.
Pierre-Louis, il a inventé beaucoup.
Je suis allé très loin dans le sens inverse. C'était la fresque, si vous voulez, et voir si ça tenait. Or, ça tenait, ce sont surtout des fragments qu'on a voulu recoller, remettre, mais sans qu'on ait la moindre chose. Et surtout, c'était parce que Sappho reste quand même pour moi, pour avoir lu tous les... la plus grande poétesse, évidemment, de l'Antiquité, c'est l'équivalent d'Homère pour moi. On oublie complètement que Sappho était une voix de femme, bien entendu, mais une voix de femme au sens où Homère était aussi un aède. C'est-à-dire que les marins dans les ports écrivaient les graffitis. Et on a retrouvé pas mal de choses grâce aux graffitis des marins qui, effectivement, écrivait, j'allais dire, des vers de Sappho.
Vous la mettez sur le même plan, presque, au même niveau qu'Homère. William Marx, vous comprenez
Oui.
Malheureusement, il ne nous a resté que des fragments, et donc nous n'avons pas, comme pour Homer, enfin, le pseudo Homer.
Mais si vous voulez, la beauté de la voix, enfin, j'allais dire, pour moi, c'est aussi fort. Et c'était dans l'Antiquité, en tous les cas, aussi écouté, non pas comme elle, on ne formait pas à travers sa faux, mais malgré tout, chacun avait dans la tête, si vous voulez, ses poèmes. Et si vous voulez, je suis très sensible à ce que chacun porte en lui et apprend. De la même manière que les marins grecs chantaient sa faux, si vous voulez, quand ils débarquaient à Alexandrie, de la même manière, dans des raisons, je veux dire, dans un contexte totalement différent, auquel j'étais très sensible, je pense à Joseph Brodsky, qui m'a donné l'idée de traduire Poppers. Il est mort juste avant de pouvoir faire la préface, mais c'est parce qu'il m'avait dit, et ça m'avait profondément ému, qu'il avait tenu dans les camps du goulag grâce à Propers, car il avait appris Propers par cœur. Et moi, pourtant, qui connaissais bien Propers quand même pour m'y être mis, j'étais sidéré devant la capacité qu'il avait à restituer d'emblée, évidemment. Il apprenait et se récitait. Et cela en dit long. Si vous voulez, c'est la parole adressée, retenue, pensée. On va au-delà de l'engelure de l'écrit. Vous voyez, là, on va vers une forme de vie. Enfin, moi, c'est si vous voulez, et pour Sappho, c'est aussi cet incroyable chant qui résonne tout au long de la Méditerranée, dans les ports où on évoque. Enfin,
vous nous liriez un extrait de
votre traduction? Ce serait plutôt des fragments, parce que je trouve que ce sont surtout des fragments. Bien. Je prendrai juste quelques fragments. Tout simplement, puissais-je, ô Aphrodite, à la couronne d'or du sort, cette part obtenir. Je ne suis pas de ceux qui ont ressentiment ou colère, au contraire, j'ai l'âme simple. Les étoiles autour de la lune belle, à nouveau cachent leur figure brillante, qu'en pleine, elle resplendit le plus sur toute la terre, argentée. Tu nous mets à cuire. Ma plainte, qui s'écoule goutte à goutte, celui qui me fait des reproches, que les vents l'emportent et les soucis. Plus belle les Mnasidika que la délicate Guérino, pourtant, rien. À présent, ne pas vouloir, plus belle. Il n'est pas juste que toi, Mika, mais je ne te permettrai pas. Tu as pris l'amour de la Pintilide, mauvais caractère, un chant doux à la voix de miel, au son aigu, humide de rosée. Moi, sur un coussin doux, j'étendrai mes membres. À elle, froid est devenu leur cœur et elles laissent tomber leurs ailes.
Qu'ajouter à cette lecture de Sappho? Vous présentez, je le disais, cette édition de texte de Jacqueline de Romilly dans la collection au bouquin, avec Arnaud Zucker, avec Monique Trédé, avec Marion Bellissime. Je voudrais qu'on questionne cette empathie dont vous parlez toujours au sujet de Jacqueline de Romilly, dans le rapport qu'elle avait avec les auteurs de l'Antiquité. En quoi était-ce une arme, sans empêcher, dites-vous, sa rigueur scientifique?
Alors, si on prend l'exemple de Thucydide, oui, il est très clair que l'empathie totale qu'elle a avec Thucydide, puisqu'elle a parlé de du vrai compagnon de sa vie qu'avait été Thucydide, hein, donc ce n'est pas moi qui force les mots, là, très clairement, nous n'avons pas, là, j'allais dire, nous avons un équilibre parfait entre la science et l'empathie qui permettent d'avoir un travail exemplaire, monumental. En revanche, après, il y a dans la vie de Jacqueline de Romilly un changement après 69-70, le sentiment, c'est moins mai 68 que parce que je suis très près, j'allais dire, le devenir des études grecques et latines, elle prend conscience de la nécessité de s'adresser non plus au public universitaire, mais de s'adresser au grand public, c'est très clair. Elle cherche à faire connaître, à défendre et à porter.
Stratégiquement,
Stratégiquement, elle l'a compris tout de suite, parce que oui, elle était effectivement une femme d'émotion, mais aussi une femme de tête. Hein. Elle a parfaitement compris le rôle qu'elle pouvait jouer. Et elle est devenue, et c'est là où elle s'est retrouvée avec Jean-Pierre Vernant, qui a commencé aussi à écrire pour que le grec et le latin soient devenus. Et une des raisons, qui est une des belles raisons, c'est qu'on ne pouvait pas avoir entraîné autant d'étudiants et autant de professeurs, et ensuite les abandonner. Elle a jusqu'au bout voulu continuer. Alors, maintenant, dans les textes qu'elle propose ici, c'est une narration, si vous voulez, j'allais dire fine, intelligente. Je disais kaléidoscopique parce qu'elle elle tisse, finalement, arrive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les professeurs préféreront peut-être pour la classe des approches qui seraient davantage celles que peuvent proposer quelqu'un qui continue et qui fait la même chose que Jacqueline de Romilly. Je veux dire, Florence Dupont a passé 4 années encore en formation continuée à aller, j'allais dire, prôner, défendre, si vous voulez, l'Antiquité, hein, bien évidemment. Et donc, Jacqueline de Romilly, nous le fait percevoir d'une manière différente. Moi, je suis sensible, si vous voulez, à certaines images, à certains rapprochements. C'est une découverte des œuvres qu'on peut faire. C'est une longue explication de texte menée avec énormément de finesse. Ça ne correspond peut-être plus à la façon dont on peut former les enseignants, mais c'est, en tous les cas, j'allais dire, un apport inestimable pour celui qui a envie de parcourir l'Antiquité.
On va vous écouter lire un extrait donc du Jacqueline Romilly dans le texte. C'est son livre intitulé Alcibiade, donc consacré à l'un des héros les plus intéressants de l'Antiquité. On vous écoute.
Aurais-je donc, en fin de compte, proposé l'exemple d'un historien grec à la lucidité éblouissante, Thucydide, mais en même temps d'un héros grec qui ne nous apporterait que des leçons négatives? Ce serait oublier les images radieuses qui nous restent de lui. Ce serait oublier la beauté, mais aussi l'intelligence rapide, la parole aisée, le courage devant l'ennemi et devant l'adversité. Dès que l'on cesse de faire l'application à la politique, les qualités et les dons reprennent la première place. Alcibiade est comme ces héros de la tragédie grecque qui rayonnent au-dessus de la moyenne des hommes, mais qu'une faute première précipite à bas. Il est un peu Agamemnon qui a offert sa fille en sacrifice, Ajax qui s'est permis un jour une insolence envers Athéna, et Théocle qui n'a pas su résister à la malédiction paternelle, Héraclès, imprudemment amoureux d'une jeune captive. Il a autant d'éclat qu'eux et finit aussi mal. Que l'on ne s'y trompe pas, il s'agit ici du fait que des héros admirables soient abattus pour une faute ou une imprudence et offrent ce contraste éminemment tragique entre la gloire et le désastre qui est caractéristique d'Alcibiade et caractéristique de la tragédie. Il ne s'agit pas d'une ressemblance particulière avec l'un d'eux. Et pourtant, des parallèles ont été cités au cours de ce livre. Ambitieux, Alcibiade est par certains reconnu sous les traits d'Éthéocle, le héros d'Euripide, qui célèbre le goût du pouvoir. Éloigné des siens, mais peut-être indispensable au succès à venir. Il a été assimilé à Philoctète, le héros de Sophocle, dont dépend la prise de Troie. Ces rencontres de situations ne sont pas ce qui est visé ici, encore que l'éclat du personnage puisse faciliter de telles identifications. En tout cas, il y a l'une tragique, indéniable dans sa vie.
Merci Pascal Charvet pour cette lecture. Donc Jacqueline de Romilly, Alcibiade, c'est dans l'anthologie Émerveillement, réflexion sur la Grèce antique que vous présentez avec Monique Tréder, Nozouker, Marion Bellissime. Dernière question sur elle qui s'adressera aussi à William Marx. On lui reprochait parfois ces rapprochements anti-historiques. Est-ce qu'elle n'a pas un peu idéalisé quand même les auteurs antiques et la Grèce antique?
Oui, il y a dans sa passion, effectivement, dans ce qu'elle écrit. Parce que je voudrais distinguer ce qu'elle écrit de ce qu'elle disait. Mais dans ce qu'elle écrit, il y a effectivement une forme d'idéalisation qu'on a pu lui reprocher. Mais je dirais, j'avais voulu cette image de la poétesse mexicaine que j'aime beaucoup, que j'ai longtemps fréquentée, Sor Juana Inés de la Cruz, qui a eu un destin bien particulier. Et Sor Juana était aussi, c'est le même type de femme.
Pas la même époque.
Pas la même époque, 17e siècle, avec l'Église qui l'a empêchée, effectivement, s'exprimer. Au Mexique, oui, c'est la première grande poétesse mexicaine que Paz célèbre comme, effectivement, celle qui lui a donné envie d'écrire. Mais il y a quelque chose de cela dans cette ténacité chez Jacqueline de Romilly, ce côté féminin. Mais, si vous voulez, c'est cette force, moi, qui m'a plu. Maintenant, si vous me dites idéalisation, oui, c'est la même idéalisation qu'on va trouver chez ces humanistes. Elle fait partie, elle est l'un des derniers maillons de la chaîne des humanistes qui ont idéalisé ce monde ancien. Et je pourrais personnellement dire, comme William l'a dit tout à l'heure, je serais plus sensible. Moi, chez Alcibiade, il y a des choses terribles que j'aurais montrées. Et c'est vrai qu'il y a...
Elle l'excuse.
Mais je veux dire, elle est sereine et crée ce sentiment d'apaisement.
Oui, c'est ça. William Marx.
Je partage avec Jacqueline Romilly la fascination pour le personnage d'Alcibiade, mais surtout l'aspect, je trouve, charnel du rapport avec les textes. Et là, je crois que c'est quelque chose qui nous réunit tous ici autour de cette table, ici avec Jacqueline Romilly, avec un grand nombre d'hellénistes, de latinistes. C'est-à-dire que pour ma part, par exemple, je ne peux pas laisser passer une journée sans lire, avant de m'endormir, une page de grec ou de latin. C'est pour moi fondamental et c'est vital. C'est-à-dire que je me ressource à quelque chose qui est plus profond encore que moi-même et que je ne peux pas même comprendre, en fait. Enfin, qui n'est pas, je ne peux pas en comprendre absolument toutes les conséquences, mais j'ai absolument besoin de revenir à cette source-là et qui passe aussi par le biais de l'altérité de la langue. Hein. C'est ça qui est aussi important.
Oui, on n'en a pas parlé, c'est vrai, quand vous disiez que souvent, c'est vrai, l'enseignement passe par les textes, par des traductions hein, aussi. Le rapport à la langue, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez.
C'est-à-dire que ces langues sont extrêmement dépaysantes. Bien sûr, elles sont, le latin est en grande partie à l'origine, enfin même essentiellement à l'origine du français, mais ce sont quand même maintenant des langues extrêmement différentes. Mais le latin et le grec fonctionnent de manière quand même très différente de des langues modernes. Et donc c'est une école intellectuelle et de gymnastique intellectuelle incroyable. Parce que l'une des grandes différences entre le grec et le latin et la langue moderne, c'est que l'ordre des mots n'est pas fixe. Et c'est ça, c'est leur grande difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, les mots peuvent être dans un ordre qui est totalement libre. Alors ce qu'ils laissent à la littérature, un jeu, une puissance, et en particulier dans la poésie, qui est absolument phénoménale, qu'on voit dans la poésie grecque, et encore plus peut-être encore dans la poésie latine.
Ça tombe bien que vous parliez de poésie, puisque vous avez choisi William Marx comme choix musical. La première ode pythique de Pindare, c'est dans Musique de la Grèce antique, interprétée par l'Atrium Musicae de Madrid et dirigée par Gregorio Paniagua. On écoute.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
C'était Pindare, première ode pythique dans Musique de la Grèce antique, interprétée par l'Atrium Musicae de Madrid, dirigée par Gregorio Paniagua. C'est le choix de William Marx, l'auteur du Tombeau d'Œdipe, l'auteur de La haine de la littérature, que nous avons la joie d'accueillir avec Pascal Charvet pour un temps des écrivains antiques. William Marx, pourquoi avoir souhaité nous faire écouter Pindare en musique?
Je pense que c'était sensible à tous les auditeurs, c'est-à-dire que cette musique nous est extrêmement étrange. C'est une musique d'extraterrestre. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'être confronté à cette altérité de l'Antiquité elle-même, qui est perceptible par la musique. On a malheureusement très très peu de fragments musicaux qui sont interprétables. L'interprétation est toujours sujette à discussion et à débat. Mais entendre ce magnifique poème de Pindare, parce que on parlait tout à l'heure de Sappho, grande poétesse lyrique, mais Pindare était aussi un immense poète lyrique que je lis lui aussi assez régulièrement et qui est du niveau de Mallarmé, hein, pour la complexité et la force du heure
avec
des
plus
images
de soleil.
De soleil et de
la nuit mallarméenne et le soleil de Pindare.
Oui, et une grande violence et une incompréhensibilité même pour les Grecs eux-mêmes. Mais là, pouvoir entendre les mots de Pindare avec la musique qui les accompagnait.
Parce que c'est la musique, hein, qui.
Oui, là, pour le coup, on a un fragment qui a cette musique. Alors, la façon dont ça a été rendu par les interprètes est vraiment sujette à discussion. Mais je crois que c'est une bonne manière de comprendre ce que je disais tout à l'heure sur la Vénus de Milo, c'est-à-dire que cette poésie lyrique qui était essentiellement dite en musique, comme la musique était du reste qui était partie prenante de la tragédie, eh bien, elle a totalement disparu. Et comment faire sens de textes dont la moitié peut-être en fait a disparu, pas seulement les textes, mais tout ce qui était important pour leur diction.
Oui, tout ce qu'on n'a pas et qui nous permet pas justement de mesurer l'unité en fait du corpus.
Et
total.
Comme nous ne savons même pas ce que nous avons perdu, nous ne pouvons même pas imaginer le degré de notre incompréhensibilité. L'énigme est presque complète. Elle n'est pas tout à fait complète, heureusement. Nous pouvons dire des choses. Mais l'objet de ce livre, Le tombeau d'Œdipe, c'était justement d'insister sur l'énigme, d'insister sur le mystère, de manière aussi à créer du désir. Parce que lorsqu'il y a de l'énigme et du mystère, eh bien, on peut avoir du désir. C'est un peu ma différence avec la gynécomastie, c'est-à-dire que nous ne comprenons pas tout des Grecs. Les Grecs ne sont pas nous. Les Grecs et les Romains nous ont donné beaucoup de choses. Nous leur avons pris des choses et nous les interprétons à notre manière. Mais ils sont aussi très différents et ils sont une énigme pour nous. Et cette énigme est mystérieuse. Et le désir, il est là dans cet écart avec eux. Cet écart, c'est un terme qu'utilise Florence Dupont et ça me paraît très important de revenir. Il y a un écart entre cette antiquité et nous, mais c'est un écart qui est productif, qui est productif de penser. Nous pouvons penser, pas seulement les Grecs et les Latins, mais aussi nous-mêmes, à partir de cet écart.
Exactement.
Parce que nous pouvons trouver des idées qui peuvent faire fructifier notre propre société.
Alors William Marx, vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres classiques. Vous venez d'être élu au Collège de France. Toutes nos félicitations. Vous êtes spécialiste de la tragédie antique. Vous enseignez à l'université, à Paris-Nanterre. Vous étiez venu dans cette émission nous parler de votre précédent livre, La haine de la littérature, alors qui précède le précédent, d'ailleurs, qui était vraiment l'un des meilleurs livres parus ces derniers temps sur la littérature. Et il était question d'un grand auteur antique qui n'aimait pas les auteurs antiques, pas tous en tout cas. Je veux parler de Platon et je vous cite William Marx, c'était dans La haine de la littérature. « La littérature, c'est ce qu'on exile, car après Héraclite vint Platon rester dans la mémoire collective comme le plus grand exileur de poètes de toute l'histoire de l'anti-littérature. Sur le papier, cela va de soi, on ne rapporte pas qu'il eut lui-même procédé à de massives déportations. Sans doute n'en eut-il pas l'occasion. Exprimer la condamnation de la poésie sous la forme de l'exil, c'est, dans la Grèce antique, montrer que la question est éminemment politique. Il s'agit d'une affaire de pouvoir. Qui, dans la cité idéale conçue par Socrate, sera le plus à même de l'exercer ? Le livre 5 de la République fournit la réponse. Le philosophe, comparé à lui, le poète, n'est qu'un dangereux charmeur. Et là, vous citez Platon. « Sans doute, si un homme habile à prendre toutes les formes et à tout imiter se présentait dans notre état pour se produire en public et jouer ses poèmes, nous lui rendrions hommage comme à un être sacré, merveilleux, ravissant, mais nous lui dirions qu'il n'est pas d'homme comme lui dans notre état et qu'il ne peut y en avoir, et nous l'enverrions dans un autre état après avoir répandu des parfums sur sa tête et l'avoir couronné de bandelettes. » C'est étonnant. On exile, on bannit, mais avec les honneurs. C'est ça qui pourrait résumer aussi la conception qu'avaient les Grecs de leur littérature.
Cela en dit long sur le rôle que pouvait avoir la poésie, au moins dans la Grèce archaïque. Parce que les Grecs ne nous ont pas seulement donné les plus anciens témoignages de poésie, mais ils ont aussi donné les plus anciens témoignages de discours contre la poésie. Donc Sarkozy n'a rien inventé, si je puis dire.
Faites référence à la princesse de Clèves.
Ouais. Platon faisait, avant Sarkozy, de manière peut-être plus intelligente, ce discours contre la poésie. Et plus intelligente.
Il exilait la princesse de Clèves juste pour le concours des postes.
Oui, tout à fait. Bon, je ne vais pas revenir sur ce débat malheureux. Mais il y avait sens pour Platon à vouloir refonder en fait un discours, parce que les poètes dans la Grèce archaïque étaient en fait de ceux qui disaient la vérité au même titre que les devins et au même titre que la loi. Un rôle de la poésie donc qui a évidemment aujourd'hui en grande partie disparu, sinon chez quelques poètes qui revendiquent peut-être un aspect un peu prophétique, mais comme un reliquat d'un passé perdu. Et Platon, au contraire, lui, il veut inventer un nouveau discours, un discours de la raison. Et donc les Grecs ont à la fois inventé un discours poétique, prophétique qui disait une sorte de vérité, mais Platon a inventé, lui, la vérité rationnelle, à bien des égards. Et donc nous devons à cette littérature antique à la fois le pouvoir de dire les dieux et par le biais de la poésie, et en même temps le pouvoir de dire la vérité. Mmh. Et donc la littérature grecque nous donne à la fois le poison qui est la poésie et l'antidote qui est la philosophie. Je suis un peu ironique ici parce que je me situe du côté de Platon, mais réellement le discours de Platon contre la poésie est un discours qui nous permet de comprendre combien le rôle du théâtre, de la poésie était différent pour les Grecs qu'il n'est pour nous.
Alors c'est le cas aussi du théâtre, hein, je le disais à l'orée de cette émission, on en a pas mal parlé, hein, de la tragédie classique récemment avec ce qui s'est passé à la Sorbonne autour de la mise en scène par Philippe Brunet des Suppliantes d'Eschyle, mais aussi de la mise en scène à la Comédie Française de deux pièces d'Euripide qu'a associé Ivo van Hove, hein, Electre Oreste. Vous nous expliquez dans Le Tombeau d'Oedipe, William Marx, votre livre sur la tragédie grecque, qui prend comme fil conducteur la pièce de Sophocle, Oedipe à Colone, que nous n'avons rien compris. D'ailleurs, vous dites c'est inexplicable. Je vous cite. Nous lisons les textes anciens avec cette idée d'un art autonome à vocation universelle, détaché le plus possible de son contexte, des lieux, des temps et des dieux. Or, rien de cette conception-là n'existait à Athènes au 5e siècle avant notre ère. Bref, vous nous dites que de cette littérature dont nous n'avons plus que des restes, hein, ce que vous venez de nous expliquer, finalement nous sommes vis-à-vis d'elle dans la méconnaissance totale, en prétendant d'ailleurs la connaître. Comment vous savez-vous que nous ne savons rien ou quasi rien sur elle ?
Bah, il suffit d'aller voir un peu ce que les témoignages archéologiques et puis des fragments auxquels nous ne faisons pas forcément attention parce que nous considérons par exemple uniquement les pièces complètes qui nous ont été transmises. Nous avons 32 tragédies complètes qui nous ont été transmises. En fait, on peut très très bien calculer que entre la première pièce qui nous ait été conservée, les Perses d'Eschyle, et la dernière pièce qui nous ait été conservée, Oedipe à Colone, justement de Sophocle, il y a 70 ans qui sont écoulés, et ne serait-ce qu'au festival des grandes Dionysies d'Athènes, plus de 600 pièces en fait ont été présentées lors de ces grandes Dionysies. Et donc, de ces 600 pièces, nous n'en avons conservé que 32. Que la question est, qu'était le reste ? Est-ce que ces 32 pièces que nous avons conservées, qui ne viennent que de 3 auteurs, alors que nous savons qu'il y avait des dizaines de dramaturges qui présentaient des pièces à ces concours tragiques, qu'étaient ces autres pièces ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Est-ce qu'on peut essayer de répondre à cette question ? Est-il même licite de poser cette question ? Pour certains hellénistes, j'ai eu parfois certains heures, un heure avec certains, il n'est pas licite de poser cette question. Nous avons les 32 pièces et c'est sur celles-là que nous devons travailler. Non, non, non. Je pense qu'il faut se poser une question historique qui nous intéresse tous quand même. Est-ce que ces 32 pièces sont représentatives ? Et en fait, on peut essayer de commencer de répondre à cette question, soit en regardant les fragments qui nous ont été conservés et qu'on peut lire et qui nous proposent parfois d'autres visions, hein, de ce qu'est une action tragique, soit en regardant la façon dont ces pièces nous ont été transmises. Et c'est là qu'on découvre des choses étonnantes. On voit ça quand on regarde la façon dont les pièces d'Euripide nous ont été transmises. Hein, parce que l'ensemble des pièces de Sophocle, d'Eschyle et d'Euripide nous ont été transmises par un choix qui a été fait au 2e siècle de notre ère. Il y a comme ça 24 pièces qui nous ont été transmises. Mais
choisies par qui ?
Choisies par des grammairiens, des sortes de la garde des Michas. Ben, ce qui s'est passé, c'est en fait, parce qu'il n'y avait pas de dépôt légal, et donc c'est cette sorte d'anthologie qui a été faite au 2e siècle dans la partie orientale du bassin méditerranéen, qui s'est peu à peu imposée et qui s'est retrouvée, reproduite.
Et on a perdu les autres.
Et on a perdu les autres, sauf sous forme de fragments, de citations. Et là, ça concerne 24 pièces, donc des trois grands dramaturges. Mais il se trouve que ces 24 pièces nous sont arrivées par de nombreux manuscrits byzantins, avec des scolies, c'est-à-dire des commentaires. Mais il se trouve que nous avons 8 ou 10 autres pièces d'Euripide qui nous sont arrivées uniquement dans 2 manuscrits. Un manuscrit qui se trouve à Florence, un autre à Rome, et elle sans commentaire, 2 manuscrits du 15e siècle. Et ces pièces d'Euripide ont cette particularité que leurs titres se suivent dans l'ordre alphabétique. Pourquoi ? Eh bien, alors c'est une histoire un peu à la Umberto Eco, c'est un roman policier assez étonnant. Eh bien, il se trouve que il existait au 15e siècle à Thessalonique, eh bien, un fragment d'une édition antique des œuvres d'Euripide où les œuvres sont classées par ordre alphabétique et un grammairien a recopié ces pièces. Et l'intéressant ici, c'est de voir que ces pièces ont été recopiées non pas parce qu'elles ont été choisies, mais simplement parce qu'elles se trouvaient là par hasard. Et donc on peut comparer cet échantillon qu'on peut considérer comme statistiquement représentatif par rapport aux autres pièces qui elles ont été choisies. Et c'est là qu'on découvre que parmi les pièces d'Euripide, les pièces qui ont été choisies par les grammairiens sont des pièces qui, toutes sauf une, 9 sur 10, finissent mal. Et en revanche, lorsque vous prenez les pièces qui, elles, ne sont parvenues par le pur jeu du hasard, eh bien, 9 sur 10 finissent bien. Et donc là...
Ah oui, ça remet en...
Mais oui, ça remet en question tout ce que nous considérons comme étant le tragique, la tragédie. La tragédie ne se définit pas par ce qui finit mal. Une grande partie des tragédies finissait bien.
Pour terminer, William Marx, j'aimerais qu'on vous écoute lire un extrait du Tombeau d'Oedipe pour donner envie aux auditrices, aux auditeurs de rouvrir alors les pièces qu'on a conservées, hein, au moins celles-ci, les autres on ne peut plus les lire, mais de montrer que... Voilà, c'est au moins aussi bien que Game of Thrones.
Tout à coup, dans des roulements de tonnerre affreux, le ciel se zèbre d'éclairs, indubitable manifestation de Zeus. Œdipe, pressant que sa fin est proche, à Thésée, revenu de façon précipitée à ses deux filles, il ordonne de le suivre. Sans guide et sans appui, l'aveugle les conduira là où sa vie doit prendre fin. Son tombeau sera bénéfique à la ville d'Athènes, à la condition que le roi n'en révèle l'emplacement qu'à son successeur, et ainsi de suite de génération en génération. Même Antigone et Ismène n'en pourront rien connaître. Tous sortent derrière Œdipe. Un messager revient bientôt vers les habitants de Colone restés seuls en scène et leur raconte les derniers moments du héros. Tout près d'un gouffre, le vieil homme s'est finalement arrêté à mi-distance du roc de Tauricos, du poirier creux, du tombeau de pierre et du cratère où jadis Thésée et Pirithoos s'étaient prêtés serment avant de descendre aux enfers. Sitôt que ses filles l'eurent dépouillé de ses hardes lavées d'eau pure et paré du vêtement rituel, le ciel et le sol grondent à nouveau. Le temps presse. Le père embrasse ses enfants, leur adresse ses dernières paroles, et une voix retentit de toutes parts. C'est un dieu qui l'appelle avec insistance. « Hola, hola, Œdipe, que tardons-nous à partir? Tu n'as que trop longtemps traîné. » Après avoir demandé à Thésée de prendre soin de ses filles, le vieil homme renvoie Antigone et Ismène avec le reste du cortège. Seul le roi d'Athènes aura le droit d'assister au prodige qui se prépare. Le cortège s'éloigne pour se retourner quelques instants plus tard. Œdipe a disparu tandis que Thésée se voile les yeux comme devant une vision insoutenable, puis se prosterne et se relève, adorant d'un seul mouvement et la terre et le ciel demeure des dieux. Comment l'autre s'en est-il allé, emporté sur l'Olympe ou englouti dans l'abîme? Nul ne le sait.
Merci William Marx pour cette lecture. C'était donc Œdipe à Colone, revu, réinterprété par vous, William Marx. Pour conclure cette émission, je voudrais donc citer Jacqueline de Romilly, « Ce qu'a semé la Grèce ne cesse de revenir, de ressurgir. Vous croyez à la permanence de cette littérature antique dans le monde contemporain, Pascal Chervet ?
Je n'emploierai pas le mot permanence, hein. Je dirais simplement que sa confrontation permet de créer des étincelles, si vous voulez. J'évoquais des auteurs, des rapports. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui. Je parlais de Bob Dylan tout à l'heure, de Proper, mais ça peut être encore autre chose.
Donc on frotte et on provoque
des étincelles avec rigueur, bien sûr. Pas d'une anthropologie de bas niveau, mais en essayant, voilà, de créer ces étincelles.
William Marx.
Je crois que l'altérité et le mystère de ces mondes-là, tels qu'ils nous sont transmis par la littérature, nous permet aussi de refonder notre propre monde et de le faire avancer, et dans le sens d'un progrès social, d'un progrès moral. Et ça, je crois que c'est extrêmement important.
Je voudrais vous demander quels sont les 4 ou 5 livres d'auteurs de l'Antiquité que vous conseillez aux auditrices et aux auditeurs de France Culture. Pascal Chervet.
Écoutez, je vais être simple, ce seront les présocratiques, donc Empédocle, Héraclite. Ce seront aussi les élégies de Properce, les bacchantes de Ripide, l'âne d'or et les métamorphoses d'Apulée, et puis Tieste de Sénèque, mais dans la traduction de Florence Dupont, parce qu'elle a su précisément maintenir l'écart et redonner une image suffisamment juvénile à cette œuvre pour qu'on puisse l'entendre aujourd'hui et que n'importe quel adolescent voit de quoi il s'agit.
William Marx.
Oh, 5, c'est un déchirement. Je laisse de côté Homer et l'Énéide qui sont hors concours. Donc, déjà, ça permet d'avoir un peu plus d'œuvres. Je vous dis un peu quelques œuvres que je suis en train de lire actuellement ou de relire, etc., qui me nourrissent beaucoup. Alors, chez Virgile, je sauverai, en plus de l'Énéide, les Bucoliques, que je trouve un poème admirable. Pour rester chez les latins, je trouve que les lettres à Lucilius de Sénèque sont un modèle de guide de vie qui est bien meilleur que tous les petit guide de diététique ou de qu'on pouvait trouver aujourd'hui.
Et de développement personnel,
c'est incroyable. Pour les tragédies, je garderai par exemple le Prométhée enchaîné d'Eschyle ou de pseudo-Eschyle, qui est une pièce qui nous renvoie précisément au mystère des dieux. Et puis pour terminer, deux autres œuvres, alors qui nous renvoient plutôt à une antiquité un peu plus tardive. Plutarque, qui est celui qui nous a sauvé une bonne partie de la culture antique, et ce dialogue que je trouve incroyable sur le Epsilon de Delphes, qui était suspendu à Delphes, qui est une magnifique réflexion théologique sur les dieux et le dieu. Enfin, c'est absolument inouï et plein d'une culture incroyable. Et un texte peu lu aujourd'hui, mais qui je trouve admirable et qui nous renvoie à une bizarrerie du monde antique, c'est La vie d'Apollonios de Tyane, de Philostrate, qui nous renvoie à ce prophète un peu thaumaturge, une sorte de nouveau Jésus, un Jésus païen, qui a fait des miracles dans le premier siècle de notre ère et qui est tout à fait intéressant. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Donc, Jacqueline de Romilly, Émerveillement, Réflexion sur la Grèce antique, édition établie par Marion Bellissime et que vous présentez Pascal Charvet avec Monique Trédé et Arnaud Zucker. Je cite aussi La Magie, votre ouvrage sur les voies secrètes de l'Antiquité. C'est chez Nil, texte traduit et présenté par Pascal Charvet et Anne-Marie Ozanam. Et puis, William Marx, Le Tombeau d'Oedipe pour une tragédie sans tragique, c'est chez Minuit. Et je cite aussi La haine de la littérature chez Minuit. Et je signale aussi, d'ailleurs, aux belles lettres de Jacqueline de Romilly, Magie et rhétorique en Grèce ancienne. Il s'agit de 4 conférences données à Harvard par Jacqueline de Romilly. Et c'est remarquable. Merci à tous les deux.
Merci.
Et merci à vous.
Voilà, Le Temps des Écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, à la technique Manuel Couturier. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pour réécouter à l'infini ce Temps des Écrivains antiques sur franceculture.fr avec Pascal Charvet et William Marx.